9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. De quoi les déchirements de la droite en Provence-Alpes-Côte d'Azur sont-ils révélateurs? On va voir ça avec l'historien de la politique Jean Garrigue. Je recevrai ensuite Brice Perrier qui vient de publier SARS-CoV-2 aux origines du mal. C'est la première enquête journalistique au monde sur les origines du virus. Et l'on terminera l'émission avec un grand chef, c'est Bruno Verjus, le seul critique gastronomique qui a obtenu une étoile au guide Michelin. Il vient d'écrire son premier livre, L'art de nourrir. Bonjour Jean Garrigue.
Bonjour.
Vous êtes historien, universitaire, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Vous avez beaucoup écrit sur la Ve République. Votre dernier livre, c'est sur les perdants magnifiques de 1958 à nos jours. C'est paru chez Talendier. Si je vous ai fait venir ce matin, c'est que l'accord entre LREM et Renaud Muselier pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, annoncé par le Premier ministre Jean Castex dimanche dernier, a provoqué un véritable séisme à droite. Hubert Falco, le maire Les Républicains de Toulon a quitté le parti. Christian Estrosi, le maire de Nice également. La crainte de la direction des Républicains, c'est quoi? C'est que Emmanuel Macron fasse à LR en 2022 ce qu'il a fait au PS en 2017?
On peut le redouter. Ça a commencé d'ailleurs avec le choix d'Édouard Philippe comme Premier ministre. Il faut quand même rappeler qu'Édouard Philippe, c'était une des figures des Républicains, le bras droit d'Alain Juppé, un des espoirs de la famille. Jean Castex vient aussi des Républicains. Et puis il y a des prises de guerre comme Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Bon, tout ça fait que, incontestablement, il y a une dislocation progressive par Emmanuel Macron de cette famille politique. Et on peut comprendre qu'ils aient très mal vécu ce qui allait se passer en région PACA.
Le problème des Républicains, c'est qu'il n'y a pas de frontière claire entre eux et La République En Marche. Et de l'autre côté, il n'y en a pas non plus de frontière claire avec le Rassemblement National. On dirait un peu la Pologne en 1939.
Exactement, on peut dire ça. Est-ce qu'ils vont mourir pour Danzig? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien, oui, effectivement, les frontières sont très poreuses. Quelle véritable différence sur le fond des enjeux entre précisément un Renaud Muselier, un Christian Estrosi et Emmanuel Macron, d'autant plus qu'Emmanuel Macron, on le sait bien, a beaucoup infléchi sa politique vers le centre-droit, voire même sur des positions régaliennes vers la droite. De l'autre côté, on voit aussi que ce monsieur Mariani, qui dirige la liste de Rassemblement National, vient des Républicains. Il fait partie de ce courant de la droite populaire qui n'est pas tout neuf d'ailleurs, hein, que ça fait une vingtaine d'années que ça existe dans la droite républicaine. Et on voit bien que pour les électeurs, surtout dans cette région, il y a des tentations de quitter le navire qui sont énormes, parce que vous avez une partie de l'électorat qui est très sensible aux enjeux sécuritaires, identitaires, et qui peut aller vers Mariani, la liste Mariani, et l'autre, au contraire, plus urbain, plus cadre, peut-être un peu plus jeune, qui vont plutôt s'intéresser à la liste de La République En Marche. Donc là, il y a un vrai problème d'identité. Pour
et un problème aussi de stratégie électorale, parce qu'aux élections régionales, il y a un risque à s'allier avec le parti du président, mais il y en a aussi à y aller seul, le Rassemblement National pouvant tirer avantage, au fond, dans les deux cas.
Oui, même si en réalité, ce qui est assez frappant, c'est de voir que, pour l'instant, dans les sondages, la liste de Mariani est en dessous de ce qu'était en 2015 celle de Marion Maréchal. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas véritablement une percée du Rassemblement National, ce qui veut dire qu'il y a des électeurs qui pourraient encore rester du côté des Républicains. Encore faut-il que du côté des Républicains, ils aient face à eux une liste qui soit plutôt dans cette sensibilité sécuritaire, identitaire. Et on voit bien d'ailleurs que c'est un peu l'air du temps à travers tous les faits divers dont on nous parle dans les médias. Donc il y a un vrai problème là qui se pose d'espace politique, de stratégie. La logique pour Renaud Muselier, qui est un républicain modéré, de la droite modérée, c'était effectivement l'alliance avec les macronistes. Sauf que par rapport à son électorat, pas forcément ça qu'ils attendent.
Ce qui est symbolique, au fond, dans cette affaire, vous l'avez dit, c'est que tous les protagonistes qui s'affrontent et qui même parfois se déchirent, Renaud Muselier, Jean Castex, Thierry Mariani qui mène la liste RN en PACA, Éric Ciotti et Christian Jacob à la tête des Républicains, Hubert Falco et Christian Estrosi qui démissionnent après s'être fait traiter de malfaisants par les directions de leur parti, absolument tous étaient sarkozystes sous Nicolas Sarkozy. Et 8 ans après, la droite est en long bout.
Ben oui, parce que la droite, comme la gauche d'ailleurs, ont commis ce péché capital de ne pas avoir su se renouveler, de ne pas avoir su créer l'un et l'autre d'ailleurs un programme, une plateforme, quelque chose qui donne une véritable identité politique à leur famille. On l'a vu à gauche depuis 20 ans, depuis la fin des présidences de François Mitterrand. Incapable de recréer une nouvelle forme de social-démocratie, en fait.
Mais c'est ça, pardon de vous interrompre, oui. Jean-Garry, c'est ça ou c'est pas ça? Ou c'est simplement qu'ils ne sont pas arrivés à avoir un nouveau leader?
Alors,
parce que souvent, c'est le leader qui aimante autour de lui.
C'est là que je voulais en venir pour la droite. La droite, on le sait bien, se structure toujours autour d'un leader. Depuis le général de Gaulle, il y a eu Jacques Chirac, il y a eu Nicolas Sarkozy. Depuis Nicolas Sarkozy, on le voit bien, il n'y a pas eu de leader. François Fillon, au moment de l'élection de 2017, n'était pas véritablement un leader. Il était celui qui a émergé de la primaire, mais on voit bien qu'il y avait deux autres personnalités, au moins, qui lui disputaient ce leadership. Ils sont en manque d'un véritable leader charismatique. Et on le voit bien d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise de ce type, réapparaît Nicolas Sarkozy comme une sorte de statue du commandeur et comme une sorte de grand sage dont on attend justement cette reconstruction. Mais Nicolas Sarkozy, en même temps, pour les Français, il appartient à une autre génération. Je pense que ce serait très difficile pour lui de revenir. Et donc, ils sont en manque de ce chef.
Et Nicolas Sarkozy, au fond, il a l'aura d'avoir été le dernier à gagner. Au fond, c'est ça que...
Oui, c'est important aussi. Il a montré qu'il pouvait réunir les droites, parce qu'il avait fait d'abord main basse sur l'UMP, qui était cette grande alliance des droites. Il a fait main basse sur l'UMP. Et c'est à partir de ce rassemblement de toutes les droites, de ce leadership incontesté, il a écarté Dominique de Villepin, c'est à ce moment-là qu'il a pu devenir le candidat de la droite et prendre le pouvoir. Tant qu'il n'y aura pas à droite quelqu'un qui est susceptible comme ça, de faire cette union de toutes les droites, dont on sait qu'elles sont très divisées. Et ça, c'est René Raymond le disait, il y a plusieurs droites, plusieurs traditions, orléanistes, légitimistes, bonapartistes, il y en a même d'autres aujourd'hui. Tant que vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de faire cette union, vous ne réussirez pas à prendre le pouvoir.
On fait une pause, Jean Garrigue, et on continue d'en parler.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec l'historien Jean Garrigue, le président du comité d'histoire parlementaire et politique. On revient sur cette affaire qui a divisé, voire déchiré la droite en PACA. On parlait de Nicolas Sarkozy, mais on pourrait prendre le cas de Jacques Chirac, qui lui aussi avait rassemblé la droite après l'élection de François Mitterrand. En 86, quand il devient Premier ministre de la première cohabitation, tous sont avec lui à l'époque, hein, l'UDF, le RPR, c'était comme ça que ça s'appelait, le centre, ça allait de François Léotard à Charles Pasqua, en passant par François Bayrou et Philippe de Villiers, sans oublier, bien entendu, Édouard Balladur. Et puis, quand il est entré à l'Élysée, 9 ans plus tard, Jacques Chirac, il ne lui restait que Alain Juppé et Philippe Seguin. Lui aussi est arrivé, la droite était en lambeaux à ce moment-là, les divisions avaient été terribles. Et pourtant, il est arrivé au pouvoir.
Et encore, Alain Juppé et Philippe Séguin se détestaient et Séguin a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues d'Alain Juppé en 1995. Donc on voit bien, oui, la difficulté de cette famille à se réunir. Mais je le répète là encore, malgré tout, on voit bien la campagne de Jacques Chirac en 1995, il trouve les ressources de combattre et de battre celui qui son ami de 30 ans, le félon Édouard Balladur. Attention, il faut bien voir que cette campagne ne recouvrait pas simplement une querelle d'hommes, car Édouard Balladur représentait une hypothèse de droite libérale, un peu élitiste, alors que Jacques Chirac, à ce moment-là, fait campagne sur la fracture sociale, sur une droite populaire. On n'est pas du tout dans le même type de droite. Mais malgré tout, comme toujours, ce qui s'impose, c'est la personnalité, c'est la capacité de leadership, et c'est ce qu'a réussi à faire Chirac. Il réussit en 2002 à se faire réélire en profitant des erreurs de Lionel Jospin. Mais cette capacité au leadership, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, manque cruellement dans cette famille.
On peut même voir ça encore, de façon encore pire. Quelqu'un qui voudrait rassembler la droite aujourd'hui, d'Édouard Philippe à Thierry Mariani, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, en passant par Bruno Le Maire et François Baroin, ben, celui-là, il se ferait virer des Républicains, puisqu'il lui est interdit de s'allier avec qui que ce soit de l'extérieur.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'espace politique des Républicains qui s'étant singulièrement rétréci, et leur résultat en témoigne, la solution pour eux n'est précisément que dans cette alliance. Mais d'ailleurs, ça a toujours été le cas, parce que lorsque... Giscard a pris le pouvoir en 1974 et s'appuyait sur une grande alliance, y compris avec des transfuges de la famille gaulliste, Jacques Chirac en tête, il avait les centristes avec lui, et puis il avait sa famille, les giscardiens, les républicains indépendants, qui étaient une droite modérée, libérale. À chaque fois, il faut réussir cette alliance. Sauf que maintenant, ça n'est plus possible, parce que sur la gauche, il y a Emmanuel Macron, qui lui a réussi, d'une certaine manière, à capter toute une partie des leaders et de l'électorat des Républicains. Et puis à droite, comme on le disait tout à l'heure, ben il y a ce Rassemblement National dédiabolisé, un peu régularisé, qui est tout à fait capable aussi de séduire une grande partie de l'électorat des Républicains.
Donc il leur faut quelqu'un de capable de démanteler les électeurs et les élus, mais à lui tout seul, sans faire d'alliance au fond. Mais
c'est ça.
Est-ce que Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse en seraient capables? Est-ce que Édouard Philippe en serait capable? Et est-ce que Emmanuel Macron, au deuxième tour l'année prochaine, en sera capable?
Alors, on voit très bien que c'est aujourd'hui la stratégie de Xavier Bertrand, en sortant des contraintes du parti des Républicains, d'essayer de rassembler un électorat qui correspondrait en fait justement à ce qu'on disait, c'est-à-dire à l'électorat traditionnel qui permet la victoire d'un candidat de droite. Sauf que là, il se heurte précisément au parti, et donc c'est quand même un sérieux handicap, et il se heurte à d'autres ambitions, celle de Valérie Pécresse et peut-être de Bruno Retailleau.
C'est normal, c'est la rivalité.
Ça, c'est la saine rivalité.
Mais c'est vrai qu'il faut sortir du parti pour espérer...
Il est obligé de sortir du parti. Mmh. En principe, quand vous, à droite, quand on gagne une élection, c'est parce qu'on avait eu le parti, on l'a dit tout à l'heure, Chirac, Sarkozy. Là, il faut sortir du parti. C'est donc beaucoup plus compliqué, d'autant plus que, évidemment, il y a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est très clair, élu surtout avec le centre-gauche et une partie du centre-droit, s'est infléchi vers la droite, donc peut séduire le centre-droit et une partie des électeurs de droite. Et puis, il y a derrière, et c'est l'hypothèse encore plus crédible à mon sens, mais à terme, parce qu'on ne sait pas, il est vraisemblable qu'il ne sera pas candidat en 2022, sauf accident d'Emmanuel Macron, il y a Édouard Philippe. Parce qu'Édouard Philippe, lui, est susceptible, me semble-t-il, au cas d'une... explosion définitive de la famille des Républicains, parce qu'il est très possible que le parti en lui-même ne survive pas à l'élection de 2022, lui, il est peut-être capable justement de rassembler ce front droite-centre-droit qui traditionnellement permet la victoire de cette famille.
Jean Garrigue, la grille gauche-droite, est-ce qu'elle est encore opérationnelle aujourd'hui?
Alors c'est tout le problème, évidemment, parce que qu'est-ce qu'on appelle droite, qu'est-ce qu'on appelle gauche, et est-ce qu'on ne voit pas, et d'ailleurs c'est ce que nous indiquerait le second tour hypothétique de 2022, une vraie opposition entre une candidate qui se réclame du peuple, qui se réclame des classes populaires, et de la fermeture, de la peur, au fond, de l'avenir, et qui est bien compréhensible, d'ailleurs, dans cette période. Et puis, d'un autre côté, un candidat qui représente plus les élites urbaines, cultivées, les cadres, etc. Une France optimiste, qui regarde l'Europe dans le fond des yeux. On voit bien que cette partition-là, de facto, on le voit sur le plan électoral, elle est en train de se substituer à la traditionnelle partition droite-gauche, sauf que, c'est ce qu'ont montré par exemple les élections municipales. Si je mets de côté le raz-de-marée vert dans les grandes métropoles, on voit très bien que lors des élections municipales, on a retrouvé un enracinement d'une droite assez classique et d'une gauche assez classique dans les petites et les moyennes communes. Ça indique qu'en profondeur, il y a toujours ce vrai clivage droite-gauche. Il y a des cultures de gauche, des cultures de droite par rapport au problème de sécurité, par rapport au problème d'immigration, par rapport au problème de bioéthique, par rapport aux problèmes sociaux. Il y a toujours quand même cette dichotomie française.
Merci Jean Garrigue. Je reçois dans un instant le journaliste Brice Perrier. Il est le seul à avoir enquêté sur les origines du virus. Alors, origine naturelle ou accident de laboratoire, les deux hypothèses sont aujourd'hui sur la table.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Une trentaine de scientifiques internationaux de renom, dont 7 Français, ont demandé au directeur général de l'OMS, dans une lettre, de poursuivre l'enquête sur les origines du virus SARS-CoV-2 à l'origine de la pandémie actuelle. L'hypothèse d'un accident de laboratoire est de retour sur la table. Alors Bruce Perrier, bonjour, vous êtes journaliste.
Bonjour.
Vous publiez chez Belin SARS-CoV-2 aux origines du mal, une enquête très intéressante sur le sujet. Pourquoi la piste du pangolin a-t-elle été privilégié au départ?
C'est suite à une conférence de presse de l'Université de Chine du Sud, au début du mois de février, qui a présenté un virus de pangolin en disant qu'il était à 99% identique à SARS-CoV-2, ce qui serait ce qu'on attend de l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme.
Il faut savoir juste qu'on pense que les chauves-souris sont le réservoir des coronavirus, mais il faut un animal intermédiaire, en fait, mieux compatible génétiquement avec l'homme.
Surtout plus en contact avec l'homme aussi, comme en général ça peut être des animaux d'élevage ou des animaux proches, domestiques. Les deux dernières grandes épidémies de coronavirus, c'était la civette, qui est un animal d'élevage, et le dromadaire, qui peut être d'ailleurs aussi un animal d'élevage, mais qui est aussi un animal dont on peut se transporter. Pour un moyen de locomotion plutôt. Mais là, donc, on a présenté le pangolin et 99%, ça c'est bingo, quoi, en fait. Et tout le monde a marché. Nature, la revue Nature a relayé l'information le jour même avec des grands scientifiques occidentaux qui disaient « Ah, on peut y croire, c'est ça ». Et en fait, il s'avérait que c'était faux parce que l'identité génétique n'était pas du tout de 99%. Elle était de 90% avec en plus des échantillons de virus qui n'étaient pas très clairs, qui avaient une qualité assez médiocre. Et donc voilà, et tout le monde a marché sur le pangolin et c'est rentré dans l'imaginaire collectif parce qu'en plus, ça répondait un peu à une demande collective. La nature, ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a maltraité la nature, on a braconné ce pauvre petit animal qui est le plus braconné au monde et donc on a bien mérité ce qui nous arrive, quoi.
Et l'hypothèse du marché du Wuhan comme point de départ de l'épidémie qui est aujourd'hui écartée, pourquoi est-ce qu'elle est écartée aujourd'hui et pourquoi pas hier ?
Elle est écartée même pas complètement parce que quand on voit la dernière mission de l'OMS, ils sont beaucoup intéressés au marché et dans le rapport, ils disent qu'il faut encore aller chercher. Une des premières pistes pour eux, c'est d'aller chercher les fournisseurs du marché, les élevages qui ont fourni des... Mais en même temps, c'est vrai que dans le rapport, ils disent que c'est probablement pas ça, parce que déjà, ne serait-ce que parce que les premiers malades ne venaient pas du marché. Donc après, ça a été repéré, vu comme ça au départ, parce qu'il y a quand même pas mal de malades qui venaient du marché en décembre à Wuhan, qui arrivaient dans les hôpitaux. Et donc, c'est probablement plus un cluster... Le premier gros cluster, et on a vu ça. Et puis comme c'est un marché qui vendait aussi pas mal d'animaux, des fois des animaux vivants, des animaux sauvages, donc ça collait aussi avec cette image-là, quoi.
Alors il y a l'hypothèse d'un accident de laboratoire. Elle repose sur le fait que l'épidémie est née à Wuhan, dans une ville où se concentrent les plus grands centres de recherche sur les coronavirus. Comme le dit un scientifique dans votre livre, Brice Perrier, si une épidémie de rage se déclarait près de l'Institut Pasteur, forcément à Paris, on se dirait peut-être qu'il y a quelque chose qui est sorti de l'Institut Pasteur. Sauf que là, on ne se l'est pas dit, ou en tout cas, dès qu'on se l'est dit, on a arrêté de se le dire. Pourquoi ?
Parce qu'on a considéré que c'était complotiste de penser ça, suite à un papier qui est paru dans une tribune de scientifiques, qui est paru dans le Lancet, et qui abordait pas le sujet sur le fond, mais qui disait, en fait, qui prenait la défense ouvertement, hein, c'est ça qui était d'ailleurs assez étonnant, parce qu'il prenait ouvertement la défense des scientifiques chinois, en disant que la Chine était un exemple de transparence, donc ce qui est un peu quand même... je veux dire excessif, hein. mais c'est passé comme une lettre à la poste et il disait que envisager un accident, enfin que ça sorte d'un laboratoire, c'était une théorie du complot à écarter comme telle et ça a marché. Tout le monde a, un peu comme le pangolin, tout le monde a suivi la directive et personne n'a voulu chercher, ou alors ceux qui cherchaient étaient accusés d'être des complotistes. Et ça a duré comme ça pendant... là, ça sort un petit peu là, depuis la dernière mission à Wuhan et le rapport qui, en fait, a quasiment été désavoué par le directeur de l'OMS, sous la pression notamment de cette lettre des scientifiques, et qui, malgré que le rapport écartait comme extrêmement improbable la piste du laboratoire, qu'il n'avait même pas étudié, il y en a une page sur 120 dans le rapport qui traite de ce sujet, Eh ben, le directeur de l'OMS a dit quand même il faut pousser, et donc aujourd'hui on se retrouve dans cette situation où tout le monde s'intéresse un peu à cette piste, alors que ça fait un an qu'on aurait dû se pencher dessus, parce que c'est vrai que, ne serait-ce que parce que ça se passait à Wuhan, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des caractéristiques du virus qui laissent penser que ça pourrait correspondre aux opérations que font les laboratoires comme celui de Wuhan pour anticiper l'évolution des virus, on va dire.
Oui, c'est ça. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est au fait, on fait quoi dans ces labos où on manipule des virus ? C'est quoi ces expériences de gain de fonction pour lesquelles, d'ailleurs, les Américains ont décrété un moratoire entre 2014 et 2017, en raison de leurs risques ? Il y avait déjà eu un scandale en 2011. Un laboratoire hollandais avait rendu très contagieux un virus de la grippe aviaire. Pour quelles raisons est-ce qu'on fait ça ?
C'est pour connaître les virus qui pourraient venir. Donc en fait, on repère des virus, on voit comment ils peuvent évoluer et on voit comment ils pourraient évoluer pour passer de l'animal à l'homme, devenir plus contagieux. Par exemple, celui de la grippe aviaire de 2011, on l'avait rendu aéroporté, une transmission aéroportée, alors que normalement il se transmettait pas, même il se transmettait même pas entre hommes. Mais là, on l'avait non seulement rendu transmissible, mais en plus aéroporté, ce qui était un peu le must de la transmission. Et c'est là qu'ils avaient trouvé ça très dangereux. Et à Wuhan et ailleurs, parce que Wuhan ne travaille pas seul, n'est pas le seul au monde à faire ça. Il travaille notamment beaucoup avec un laboratoire américain qui est à la pointe des coronavirus de synthèse et des expériences qu'on peut faire de ce type. Et donc à Wuhan, il faisait ça, il repérait des virus et après il les faisait évoluer, notamment en modifiant, en faisant des chimères, en mélangeant des virus entre eux pour arriver à avoir des domaines de liaison aux cellules humaines qui soient plus performants. Et aussi, éventuellement, avec ce qu'on appelle un site furine, qui est la partie au milieu de la protéine spike, qui est la protéine un peu qui permet le contact avec les cellules. Et là, c'est une des particularités de ce virus, qui est le seul coronavirus de type SARS à avoir ce site furine qui le rend beaucoup plus infectieux, qui augmente en tout cas grandement sa capacité d'infection et qui correspond aux expériences de gain de fonction qui peuvent être menées dans ces laboratoires.
Ne bougez pas, Brice Perrier, on fait une pause, on se retrouve dans deux minutes.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Brice Perrier, quasiment le seul journaliste qui est véritablement enquêté sur les origines du virus. Ça vient de paraître chez Belin, ça s'intitule SARS-CoV-2 aux origines du mal. Quels sont les éléments aujourd'hui, Brice Perrier, qui penchent vers une origine naturelle du SARS-CoV-2 et les éléments qui penchent en faveur d'une origine humaine ou du moins d'un accident de laboratoire, comme on dit ?
À l'origine naturelle, déjà, c'est le circuit habituel, on va dire, hein, qu'une zoonose, ça passe par des animaux, c'est ce qui se fait depuis la nuit des temps. Donc c'est... Après, ce qui manque pour ce côté-là, c'est de trouver par quel animal c'est passé, parce que là, le contact direct avec la chauve-souris n'est pas exclu, mais il est pas très probable, en tout cas pas à Wuhan, hein, parce qu'à Wuhan, il n'y a pas le type de chauve-souris qui font ça.
Oui, elles sont à 1500 km,
qui sont pas qui font ça, qui ont ces caractéristiques, elles sont plutôt dans le sud du pays, oui, ou en Asie du Sud-Est.
Alors, on a dit que ce n'était pas le pangolin. On pense au vison. Il y a des fermes de vison dans cette région-là.
Pas trop dans cette région. C'est plutôt dans l'est de la Chine, les fermes de vison. Donc ça, c'est une possibilité aussi, parce qu'on a vu en Europe, en fait, qu'il pouvait y avoir des allers-retours chez les visons, qui avaient été contaminés par des hommes et qui revenaient chez l'homme avec une mutation. Et donc, ça peut être aussi ce qui a provoqué peut-être les premières mutations en Europe, les premiers variants. Et en même temps, le vison, ça fait aussi penser au furet, qui est un animal de laboratoire sur lequel on peut faire des expériences, et notamment ce qu'on appelle des passages en série, qui sont en fait de faire passer des virus sur des animaux, soit sur des animaux, comme on peut le faire aussi sur les cellules, mais injecter un virus, de le récupérer dans les excréments et de le remettre dans un autre pour accélérer en fait l'évolution. Et ça peut aussi amener à faire des chimères, amener à... Là, c'est moins dirigé comme évolution, mais on va sélectionner après celui qui nous intéresse.
Et les arguments en faveur de l'accident de laboratoire ?
C'est justement qu'il y a quand même des caractéristiques à ce virus qui peuvent être naturelles, hein, parce que de toute façon, ces expériences de gain de fonction, elles recherchent le naturel, puisqu'elles veulent l'anticiper. Donc, mais notamment son domaine de liaison, qui ressemble d'ailleurs à celui du pangolin, alors que le pangolin n'a pas forcément beaucoup de contact avec les chauves-souris, hein, mais et aussi ce site furine qui est fait dans les laboratoires, qui peut être fait dans les laboratoires, et particulièrement, alors ça c'est quelque chose peut-être le point le plus crucial, c'est que sur ce site furine, il y a deux acides aminés, alors ça c'est un peu technique, je l'explique dans le livre, mais qui sont codés par des codons qui en fait sont très rares dans la nature, mais qui par contre sont très fréquemment utilisés dans les laboratoires. Et là, il y a une étude, donc déjà c'est étonnant de voir ces deux codons deux fois de suite juste dans le site furine, et alors qu'on les trouve très rarement dans les SARS-CoV-2, dans les coronavirus. Et là, il va y avoir une étude qui commence, une étude statistique très poussée, parce que bon, c'est étonnant à voir, mais pour avoir des données, il faut pousser ça vraiment en faisant des comparatifs avec tous les virus, donc ça va demander un an de calcul pour voir, en gros, le degré de bizarrerie d'avoir ces deux codons dans le site furine, le point stratégique. Et là, on pourrait avoir... certains parlent du smoking gun, quoi, du pistolet fumant. Ça pourrait être ça, en fait. Et là, on pourrait le savoir, parce que beaucoup de gens disent, oui, la Chine ne laissera jamais savoir, on ne le saura jamais, cette histoire. Ça, c'est un élément que, quoi que dise la Chine, on peut faire cette étude et on pourra savoir. Et après, la Chine aussi, on pourrait lui demander d'ouvrir un peu ses portes, parce qu'elle fait quand même partie de la communauté internationale. Et elle a travaillé aussi beaucoup avec des Occidentaux, parce qu'on dit toujours aussi la Chine, mais il y a beaucoup d'Occidentaux, de chercheurs occidentaux, des revues qui ont en fait colporté le message chinois de manière très complaisante, et qui n'est pas donc que le message chinois, parce que c'est le message aussi
de tous
ces laboratoires qui travaillent avec beaucoup de Chine, parce que la Chine est un grand réservoir à virus. Donc les Américains sont très, très preneurs de travailler avec les Chinois, qui leur envoient des séquences,
Français ont contribué à construire le fameux laboratoire P4 de Wuhan.
Oui, alors ils l'ont construit. Après, les Français, ils sont moins dans la recherche, on va dire, sur ces choses-là. Et on a beaucoup parlé de laboratoire P4, mais en fait, s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est probablement pas dans ce laboratoire, parce que c'est pas là qu'on étudie les coronavirus. C'est plutôt dans les P3, voire dans les P2. Et Wuhan ne manque pas de P3 et de P2. Quoi.
Alors, pensant que c'était un animal sauvage, l'OMS avait demandé d'arrêter la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés. Si c'est un accident de laboratoire, beaucoup voudront que l'on arrête les manipulations de virus. C'est pourtant utile, d'après ce que vous dites, pour lutter, pour envisager, anticiper les futures épidémies.
En théorie, on peut dire que c'est utile. Après, quand on voit ce qui se passe à Wuhan, où vous aviez quand même le laboratoire qui était à la pointe mondiale de prévenir une pandémie, c'est là que ça arrive, donc c'est quand même assez...
Si c'est arrivé.
Non mais c'est là que la pandémie arrive.
Oui.
Ça c'est un fait, que le laboratoire qui était à la pointe mondiale pour prévenir les pandémies, c'est dans la ville où il travaille que la pandémie arrive. Donc c'est peut-être aussi un signe pour s'interroger sur ce que font ces laboratoires, même si c'est naturel, parce que le risque existe. Et quand je demandais justement à Jean-Michel Clavry, qui est un grand virologue, qui était celui qui parlait de l'histoire de la rage et de l'Institut Pasteur, qu'est-ce que nous a apporté en fait la recherche sur les gains de fonction pour côté pratique, pour nous soigner, pour trouver des vaccins, tout ça. Lui, il est pour, parce qu'il dit qu'il faut faire de la recherche et on ne peut pas brider les scientifiques. Mais quand je lui demandais ça, il me dit ça c'est une bonne question parce que j'en sais rien. Et finalement, ça ne m'intéresse pas. Et vous voyez qu'un virologue de haut niveau ne sait même pas la réalité, l'aspect concret d'expériences qui sont menées quand même depuis 10-15 ans. On peut s'interroger. Et il y a des chercheurs, moi, Serge Morand, par exemple, qui fait la postface du livre, qui pense plutôt à une hypothèse de zoonose, parce que c'est son travail. Il travaille beaucoup en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, sur les contacts entre les animaux et les villages. Et lui, il dit que déjà, les contacts directs faune sauvage, homme, ils sont très rares. En général, les pandémies ne viennent pas de là. Et collecter tous ces virus, c'est peut-être illusoire, parce qu'il y en a des, presque près d'un million qui sont, on sait pas combien il y en a, mais c'est peut-être des millions, donc on les aura jamais tous, et en plus on ne sait pas forcément comment ils vont muter, c'est assez présomptueux de savoir comment ils vont muter, donc en fait il y a un risque qui existe, qui peut être contrôlé par des mesures de sécurité, ça, mais le risque existe. La réalité de ce que nous apporte cette recherche, elle est encore pas nette, quoi. Alors bien sûr on peut pas brider la recherche complètement, mais aujourd'hui on ne sait pas. Et multiplier cette recherche, multiplier les laboratoires, comme ça se fait. La Chine a annoncé qu'elle allait construire 100 laboratoires P3 ou P4. C'est peut-être pas forcément non plus la solution. C'est peut-être un côté scientiste de croire la science va nous permettre de tout contrôler. Et peut-être justement cette épidémie, elle peut nous amener à réfléchir à ça, à comment est-ce qu'on recherche, à notre rapport à la nature, et voilà, ce genre de choses.
Merci Brice Perrier. SARS-CoV-2 aux origines du mal, ça vient juste de paraître chez Belin. On a maintenant rendez-vous avec un cuisinier, et pas n'importe lequel. C'est l'un de nos chefs les plus atypiques, c'est Bruno Virgus.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Bruno Virgus.
Bonjour.
Vous êtes le chef de table rue de Prague, l'un des restaurants gastronomiques les plus originaux de Paris. Vous venez de publier chez Flammarion L'Art de Nourrir. Vous dites dedans que vous êtes un amateur qui est devenu professionnel.
C'est ça. Je pense que je peux pas mieux me définir. C'est-à-dire, c'est vrai que je n'ai pas embrassé la profession de cuisinier dans ma prime jeunesse. En revanche, à une cinquantaine d'années, j'ai résumé ma vie, ce que j'étais, ce que j'avais appris pendant mes études, ce que la vie m'avait appris aussi. Et puis je l'ai synthétisé, ce que fait un peu tout le monde en ce moment, d'ailleurs après cette crise Covid, je l'ai fait un peu avant, il y a 8 ans. Et j'ai décidé d'être cuisinier parce que j'avais envie de nourrir. J'avais surtout envie de nourrir bien, c'est-à-dire de prendre soin et de nourrir avec des produits exceptionnels. Parce que pour moi, la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. C'est le principe de art de nourrir.
Mais il n'y a pas beaucoup de cuisiniers amateurs qui ont fini par avoir une étoile au Michelin. Vous êtes l'un des rares.
Ouais, je sais pas. Je suis une espèce rare, moi aussi.
J'ajouterais que vous êtes le seul critique gastronomique qui a fini par avoir une étoile au Michelin.
Ça, je crois que c'est vrai. Je pense que des amateurs étoilés, ou en tout cas qui n'étaient pas issus de la profession telle qu'on peut l'entendre, il y en a pas mal. En revanche, quelqu'un qui a critiqué beaucoup la cuisine, écrit beaucoup sur la cuisine et les produits étoilés, je suis pas sûr que ça existe encore.
Bruno Vergès, vous avez beaucoup goûté, beaucoup dégusté, beaucoup observé avant de vous mettre à la place du chef. Vous parlez de produits, d'ailleurs. Vous n'aimez pas dire ingrédients. Ce serait renier leur personnalité, écrivez-vous. Pourquoi ?
Oui, je crois que c'est important, parce que vous savez, ce qui compte dans la vie, c'est la culture, c'est se cultiver, c'est apprendre. Et on apprend beaucoup par les livres, c'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre, d'ailleurs. Et donc, apprendre par les livres, c'est apprendre à observer et comprendre et voir qu'effectivement, c'est toujours un peu étrange dans une recette de dire « prenez 100 grammes de ceci » ou « prenez un poulet » ou « prenez un morceau de viande ». Mais lequel, de quoi on parle? Et alors, ça m'embête parce que ça me ramène à un mode de pensée agro-industriel qui est vraiment pour moi le synonyme de la malbouffe et de beaucoup de désastres qui nous surviennent. Et donc, je pense qu'il faut, il faut garder ce côté d'observation, d'auscultation presque, pour comprendre. Et quand on est professionnel, puisque maintenant je le suis, ça me permet ensuite effectivement de réfléchir de quelle façon je vais faceter ce produit pour essayer de le rendre merveilleux.
Pardon de vous interrompre, mais la différence entre un amateur et un professionnel, c'est qu'il y a une mécanique chez le professionnel. Il travaille pour un plus grand nombre, il a une obligation de résultat. Vous, j'ai l'impression que vous repartez à zéro à chaque fois, comme un amateur, en fait.
Oui, je crois que j'ai gardé ça, mais je pense que c'est le secret aussi. Vous savez, c'est un métier tellement difficile d'être cuisinier ou de travailler dans la restauration d'une façon générale, mais c'est une mobilisation de chaque instant, et je crois que finalement, de garder cet esprit de l'amateur, c'est garder l'appétit de nourrir, c'est garder l'appétit de réjouir et de faire du bien. Et en même temps, c'est aussi garder l'appétit pour créer, pour innover, pour ouvrir de nouveaux horizons. Donc c'est une vraie attitude intéressante.
Vous mettez les pieds dans le plat, si je puis me permettre cette expression, dans votre livre. Vous dites que les restaurants ne manquent pas, où les plats sont des entrées déguisées. Elles donnent l'illusion d'être plus importantes, mais la qualité fournie en poisson ou en viande y est petite, de l'ordre de 60 à 100 grammes par assiette. C'est vrai que dans votre restaurant, c'est le double, hein ?
Oui, enfin, si vous voulez, le projet, c'est nourrir. Moi, je me souviens très bien d'un restaurant que je ne citerai pas, à l'époque où justement j'étais critique. Et puis, c'était la mode dans la suite des histoires de Ferran Adria, où on adressait 45 plats qui étaient débouchés. Et on m'apporte le poisson, et qui était un morceau de sole, mais qui devait faire vraiment sérieusement 15 grammes. Et alors, je le mange, c'était absolument délicieux. Je prends mon assiette, j'arrive en cuisine devant le pass et je dis: les garçons, l'échantillon est accepté, vous pouvez envoyer le poisson.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... 60-100 grammes, c'est vrai que ça arrive souvent.
Oui, ça arrive souvent. Encore une fois, il ne s'agit pas non plus d'offrir des assiettes qui soient totalement roboratives, mais je pense que, encore une fois, l'épanouissement du mangeur... Moi, je me place toujours du côté de celui qui mange, de celui de mon client. L'épanouissement par rapport à un plat qu'on a conçu, c'est quand même d'avoir un certain nombre de bouchées, et dans ces bouchées-là, de vivre la vie de ce que l'on a mis de façon un peu différente, et qu'on y aille, quoi, qu'on soit pas sur trois bouchées, deux bouchées et demie, et qu'on reste un peu comme ça, un peu bizarre, pendu entre deux sensations, celle du pas assez et celle du regret.
Vous utilisez beaucoup de plantes sauvages, le chiseau, la menthe aquatique. Qu'est-ce qu'elles apportent exactement ?
Moi, j'aime beaucoup l'énergie du vivant. Vous l'avez remarqué dans mon livre, je parle beaucoup du vivant. Et cette énergie du vivant, je la retrouve effectivement dans les plantes sauvages, dans la cueillette, dans les variétés anciennes, dans les espèces sauvages, dans tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est aussi une façon de revenir finalement à mes origines. Moi, je suis un enfant qui est né à la campagne, à Rouen et surtout à Renaison, et qui vivait finalement entre des jardins, des vergers et une rivière. Et donc ce rapport à la cueillette avec ma, ma grande-tante Marguerite qui allait cueillir, on allait le matin ramasser des herbes pour les lapins et aussi des herbes pour nous pour les salades. Et j'ai gardé ça et j'ai trouvé qu'il y avait toujours une forme de cohérence par rapport à notre corps. Quand on mange ces plantes sauvages, on sent que c'est très très cohérent dans les énergies avec celles de notre corps et on est nourri d'énergie finalement plus que de glucides, de lipides ou d'autres choses.
Nourrir son corps et son cerveau, c'est le même élan, dites-vous, il n'y a qu'à regarder les bébés au fond. Hein.
Bien sûr. Bien sûr, et je pense que se bien nourrir, d'abord, c'est effectivement stimuler sa pensée, stimuler ses sensations, stimuler ses exercices aussi d'empathie, d'une certaine façon, être capable de donner encore plus d'amour, plus de choses, parce qu'on arrive à entrer en vibration complète avec tout son propre être. Donc, c'est presque une méditation transcendantale, la belle nourriture.
Le bébé, il s'ouvre sur l'inconnu quand on le nourrit, on le voit bien.
Le bébé, il a cette caractéristique extraordinaire, c'est de tout porter à la bouche. Et j'aime beaucoup ça, parce que finalement, il y a une forme d'appropriation absolue, et on comprend bien aussi tout porter à la bouche, c'est aussi développer son sentiment amoureux. Quand on aime un bébé, il dit « je vais te manger ». Et quand on aime aussi une femme, on lui dit « je vais te manger ». Et il y a ce rapport comme ça d'empathie, de la dévoration que je trouve absolument passionnant.
Mais chez le bébé, on voit bien qu'il s'ouvre sur l'inconnu. Pour nous, c'est plus difficile. On a toujours l'impression qu'on connaît déjà. Comment vous faites, vous ? Parce que c'est justement votre réputation, Bruno Verjus, c'est qu'on a toujours l'impression que quand on mange chez vous, on goûte pour la première fois quelque chose que l'on croyait connaître.
Ça c'est le plus joli compliment qui me soit adressé. Parce que c'est vraiment l'idée. Je ne sais pas comment vous dire. Je pense que quand moi, en tout cas, j'observe un produit, j'observe quelque chose, il se passe deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a un rapport concret, qui est celui de l'auscultation. On peut dire qu'il est tout à fait cohérent et factuel, d'une certaine façon. Mais en même temps, il y a aussi cette émergence de rêverie, cette émergence de décloisonnement, d'ouverture, d'association, qui fait que j'emmène le produit dans une narration qui m'est propre, qui correspond assez souvent à un paysage, et qui me permet justement de le tailler, de le facetter, pour le faire découvrir peut-être de façon différente, ou le rapprocher de l'idée qu'on pouvait s'en faire, et essayer de vous le mettre en bouche comme ça délicatement, sans vous brusquer, mais en vous amenant tout de même avec des horizons et des frontières un petit peu plus larges.
Les Français vivent sans restaurant depuis le 29 octobre. Ça fait plus de 6 mois. C'était jamais arrivé dans l'histoire. Personne ne s'attendait à ça. Vous non plus, j'imagine. Alors, les restaurants devraient ouvrir bientôt, les terrasses d'abord. C'est-à-dire, en fait, en perdant de l'argent. On perd de l'argent quand on n'ouvre que sa terrasse, non ?
Ah oui, économiquement, aujourd'hui, on est effectivement dans une situation qui est extrêmement précaire. On a en moins eu énormément de chance parce que les décisions qui ont été prises tout de même par le gouvernement français sont uniques, je pense, dans le paysage mondial et d'une certaine façon nous sauvent à la fois, je veux dire, la prise en charge de nos équipes, en tout cas ceux qui sont restés, parce que les équipes ont beaucoup bougé, et puis ce fonds qui nous permet aussi de parer au plus pressé, de payer les loyers, l'électricité, etc. etc. En revanche, effectivement, ouvrir simplement les terrasses dans le type de cuisine que je pratique, qui est de la belle cuisine, c'est inenvisageable parce que on serait soumis aux aléas du temps et c'est compliqué d'expliquer à nos clients qui en seraient, je sais pas, à leur entrée, de dire écoutez, merci, au revoir, ou à leur rentrée, ce qui nous mettrait évidemment en infraction par rapport à la réglementation. Donc en ce qui me concerne, on attendra le 29 juin que les choses se mettent en place. Quoi. Voilà, il faut le temps que le sucre fonde.
En attendant, c'est le Click and Collect qui est sûrement là pour rester d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Et puis il y a votre livre, L'art de nourrir, qui vient de paraître chez Flammarion. Merci Bruno Verjus d'être passé par Europe 1.
Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, se termine. On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, on retrouvera Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien ?
Eh bien, la stratégie Macron pour détruire la droite, aussi bien dans le sud que dans le nord de la France. L'effroi après l'infanticide de Mérignac et la mort d'un policier à Avignon. Et après, quelles failles, quelles mesures ? Et puis, nous reviendrons sur le débat sur la levée des brevets sur les vaccins. Est-ce que c'est une décision historique qui se profile ou une fausse solution ?
Merci Sébastien, bonne émission.
Merci.